venez chez moi, y'a papapa. Aidez les poteux, y'a papapa, y'a papapa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Aidez les filles, bijou chouchou, liti gata. Coucou zizi, mimi papa, y'a papapa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Le frigo, y a tout ce qu'il faut. Cubu, les coupous, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le morceau. Cubu, les coupous, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et cave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi donc de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gaffe les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi donc de la voilà papa. Et Christophe, laisse donc ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, Licou, Pou, I-O, I-A. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijoux, cailloux, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut trotter avec Yana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et dit tes potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'là qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, les coups, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, les coups, pou, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dit tes potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dit Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Bonsoir, c'est 22h, c'est Radio Canu, c'est dimanche et c'est la causerie. Et on est hyper à l'heure ce soir en même temps. Il n'y avait personne avant nous, c'est un peu facile.
Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir.
Ça va tout le monde? Alors ce soir à la technique, c'est Jean-Yves.
Oui, c'est ça. Bonsoir, bonsoir.
Louli qui est là.
Bonsoir tout le monde.
Et on a une invitée surprise mystère qui va dire juste bonsoir. Salut Jess.
Bonsoir à toutes et à tous.
Ah, elle a dit plus que bonsoir. Moi, c'est Fab. Et on fait un gros bisou à Emma qui ne sera pas avec nous ce soir et qui nous rejoindra sûrement la semaine prochaine.
Enfin peut-être.
On ne sait pas.
On ne sait plus.
Ça dépend si les pilules fonctionnent ou pas. On a changé ces pilules.
N'importe quoi.
C'est pas vrai. Non, Emma.
Et du coup.
Prochain arrêt, Vinati.
Du coup, je vais rappeler quand même que pour nous joindre, non pas le téléphone, on va pas refaire la même chose que la semaine dernière, mais vous pouvez nous laisser un message, soit via le blog à blogs.radiocanu.org/lacauserie, ou alors sur notre adresse mail lacauseriecanu@gmail.com. N'hésitez pas, en général on répond à tous les messages, et j'en profite pour dire un grand merci à ceux qui nous ont laissé des messages suite à l'émission de la semaine dernière, qui était l'émission de nos 1 an.
Oui, c'est vrai.
Dont un petit poème qui était
des
vraiment...
Des SMB, on voilà. A répondu pas du coup.
Non, on n'a pas encore répondu, parce que...
Parce que ça nous a vachement touché.
Parce que vu le truc, vu la réponse, quoi, enfin...
Tu veux qu'on réponde?
Bah oui, merci, quoi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Mais on répondra, même des fois on répond en retard, mais on répond.
Mais on répond, ouais. En général, on répond, voilà.
Yes.
Eh ben, on démarre l'émission, tranquillou. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde est prêt?
Oui, je sais pas, vous avez un jeu de tachycardie.
Vous n'avez pas trop peur? C'est parce que tu démarres, Louli, c'est pour ça.
Peut-être.
Parce que le premier sujet,
j'ai
c'est
peur
toi.
De vous prendre en otage comme l'autre fois.
Non, non.
Attention.
Oui. Et donc, Louli, moi j'ai noté que tu voulais nous parler de la mafia verte.
Oui.
Alors, c'est parti.
Terme que j'ai inventé avant-hier. Donc, je voulais parler de mafia verte ou aussi, en fait, de greenwashing, qui est un terme un peu plus connu. Non, vive vos têtes, non, ça n'est pas un terme plus connu que ça.
Si, si,
greenwashing
si.
Qui nous rappelle le pinkwashing, par exemple.
Oui.
Donc, on peut mettre n'importe quel terme devant washing, c'est juste faire du lavage de cerveau et du blabla, du baratin publicitaire, pour faire croire qu'on soutient une cause, mais en fait, non.
Voilà. Oui.
Donc, pinkwashing pour les pseudo défenseurs des droits LGBTQWXYZ et greenwashing qui nous intéresse pour les pseudo défenseurs de l'écologie et des droits des vivants, des êtres vivants en général. Ben, je vais commencer en fait par vous parler d'un livre et ensuite vous donner mon point de vue antispéciste sur la situation, enfin
ouais.
sur de ce que j'ai appris de ce livre. Donc un livre dont on avait déjà parlé, qu'on avait déjà évoqué il y a pas très longtemps, de Fabrice Nicolino, qui est un journaliste,
ouais.
Ben, engagé en matière d'écologie depuis toujours. Donc qui a mené sa petite enquête sur. Alors le titre du livre c'est Qui a tué l'écologie ? Point d'interrogation. Et il a mené son enquête sur quatre associations, fondations reconnues internationalement, qui sont Greenpeace, WWF, la Fondation Nicolas Hulot et France Nature Environnement. Alors ça touche à la fois la France et l'international, puisque c'est ce qui concerne l'auteur lui-même. Et alors, pourquoi commencer ? Parce que je suis un peu d'accord avec lui. J'avoue la difficulté parce que je l'aime un petit peu, mais je ne l'aime pas totalement.
Mais commence par ce que t'aimes. Alors,
ce jeune peut-être. Gars qui quand même a roulé sa bosse, tout ça, donc ça fait un peu prétentieux de dire que j'ai envie de nuancer son propos. Mais c'est pas grave. Donc, pourquoi la France et l'international ? Parce que, en fait, donc, c'est un livre qui est sorti en 2011 et qui s'appuie. En dehors des quatre fondations, aussi sur le fameux Grenelle de
l'environnement,
proposé par feu le président Nicolas Sarkozy. On part d'abord on va partir du local pour aller sur le global, sans
t'inquiète pas, ça va. Le maître du temps, Jean-Yves.
Sors la clepsydre, oui. Passe partout et passe temps. Donc en partant du local en fait, déjà on peut souligner le fait que Nicolino cite ses sources qui sont très précises et ça c'est vérifiable, hein, suffit d'aller sur internet et il donne même les sites carrément de ce qu'il avance. Donc il retrace un peu l'histoire des ministres de l'écologie et de l'environnement sous Sarkozy.
Ouais, c'est impressionnant d'ailleurs.
Il va refaire les parcours en l'occurrence de Borloo.
Oui.
Et de NKM avant oui. même que enfin c'est sorti il y a 2 ans ce livre-là et maintenant on parle plus que d'elle, enfin elle est de plus en plus
oui, vu qu'elle est candidate à Paris, je crois.
À Paris, je pense ouais. même à autre chose à mon avis.
Oui, plus tard.
Et, c'est une espèce de Sarkozette.
Oui.
Et même si elle était lancée par Chirac, c'est une créature de Chirac, donc voilà. On va supposer que tout le monde dira « Ouais, mais elle est sympa, elle aime la bière. » Un peu comme Chirac, oui, elle était vrai. Sympa, elle serrait des mains, on l'aimait bien.
C'est ça.
Mururoa, on s'en fout.
C'est ça.
Les essais nucléaires. Il retrace un peu les parcours de ces deux-là en particulier. Évidemment, on devine qu'il n'aime pas trop Sarkozy non plus, puisqu'il parle de son Grenelle et de ses anciens ministres de l'environnement et de l'écologie. Et il retrace un peu l'histoire de Borloo de manière assez drôle. Borloo, c'est quand même le pote de Tapie et des plus grands. C'est un ancien avocat
d'affaires. Je crois.
Ouais. C'était l'avocat de Tapie d'ailleurs.
C'était l'avocat.
Son pote.
D'accord. Et Borloo, c'est une petite crapule qui a quand même racheté plein de d'entreprises en faillite et qui oui. Quand même sait de quoi il parle en matière d'économie.
Ah oui, c'est sûr, en matière de faillite.
Et donc, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'écologie, quand on s'intéresse à l'économie et donc aux industries et aux industriels et à ses conséquences, on devine de suite que c'est pas très compatible avec l'écologie. Donc Borloo, c'est le scandale de l'OM machin là du match truqué. OM Valence, c'était oui.
Valenciennes,
ouais. Valence, ouais, c'est autre chose. Il retrace un peu ce parcours glorieux d'un gars qui s'en tape totalement de l'écologie et qui s'en est jamais caché, mais qui sait que l'écologie c'est vachement à la mode.
Mais oui.
Et d'après les sondages, les Français sont inquiets par rapport à l'écologie. Donc, comme Borloo, ça fait une quinzaine d'années qui vise Matignon, voire plus que Matignon. Il s'est lancé un peu dans cette course-là pour accéder au ministère de l'écologie. Et il s'est fait une espèce de virginité sur mesure en matière d'écologie en disant « Oui, mais moi, quand j'étais ministre du logement, j'avais proposé des solutions de logement, de trucs durables, de
logement écologique. »
Oui, logement écologique, les fameuses maisons à 100 000 euros.
Ah oui, c'était lui d'ailleurs.
Les maisons à 100 000
déjà,
euros.
Déjà, rien que le principe de « si tout le monde devait avoir une baraque, on aurait plus de terre pour cultiver en fait. » Rien que ce principe est déjà anti-écolo.
En plus, on en a construit que 400. Il paraît, qui tombe en morceaux. Et donc il y a Borloo et il y a NKM, donc Nathalie Kosciusko-Morizet, j'y arriverai jamais, ouais, qui elle, pareil, rien à taper de l'écologie, mais grâce à des couvertures de gala, de voici, machin, où il la met en scène dans un jardin avec une harpe, genre c'est même pas Vénus, c'est comment ça s'appelait ? Un peu Diane, oui, la Diane, déesse de la chasse en plus, donc très compatible aussi avec l'écologie. Donc voilà, de ces personnages-là qui n'en ont rien à faire de l'écologie, mais qui ont eu quand même accès au ministère.
Oui, clairement.
Mais je voulais juste te dire, enfin, rappeler qu'NKM, elle visait pas l'écologie au départ, elle visait le ministère des armées quand même.
Oui, de la défense.
De la défense, donc.
C'est son truc, ouais. C'est plus la défense.
Alors, bon, bah, t'as pas les armées, t'auras l'écologie.
Avant ça, elle a eu le ministère des trucs numériques,
oui,
des technologies numériques. Comme ça. Et quand elle a enfin eu accès au ministère de l'Environnement, elle dit, ah, je suis contente parce que c'est ce que je voulais depuis toujours, j'ai l'impression d'être enfin à la maison.
Eh oui.
Bon, de gauche à droite, hein, de toute façon, il y a eu des ministères de l'écologie. Après, les ministères ont changé de nom, l'écologie, environnement. De gauche à droite, il y a eu que des gens qui s'en tapent allègrement de l'écologie. Ouais.
Et on peut dire d'ailleurs que Nicolino n'est pas politiquement orienté sur l'écologie, voilà, dans le sens où il continue à taper aujourd'hui sur tous les ministres actuels. Enfin, voilà, il n'a pas arrêté parce que la gauche est au pouvoir, en disant
exactement.
C'est mes copains, parce qu'il faut voir ce qu'il écrit sur le ministre actuel. Enfin, c'est juste magnifique, hein, d'ailleurs, des fois.
Donc, il brosse un portrait assez réaliste de gauche à droite, hein, que de gens qui se fichent totalement de l'écologie, et qui sont tous liés au monde des affaires, aux grands groupes, et donc à l'argent et à la productivité, et au fait que, comment on fait pour faire croire qu'on s'intéresse à l'écologie, mais en même temps, il faut protéger des intérêts. Et donc, il refait un parcours comme ça du monde des associations. Comment dire, écologiste,
environnemental.
J'ai envie de parler italien ce soir, je suis fatigué. Ambientaliste. Donc il repart au 18e où toutes les plus grandes idées qui sont mortes, mais elles sont toutes nées au 18e. Donc il repart un peu entre la France, l'Angleterre, les Pays-Bas. Il retrace par exemple, il nous repropose la création du WWF, qui est un truc hallucinant, donc qui a été écrit en 1961 en Angleterre, et dont le premier président était le prince Bernard, duc d'Édimbourg, qui était allemand par ses parents, et qui a un passé nazi dont il ne s'est jamais caché. Et donc, c'était le premier président du WWF. Donc, on peut dire, ouais, c'est pas grave, c'est pas de chance, hein, c'est dommage, c'est un hasard, ça n'a rien à voir. Mais bon, le gars, il était quand même il était dans les jeunesses nazies, et il s'en cache pas, il est même nostalgique de tout ça. Et donc, le tout premier président du WWF. Ouais. Déjà, pour partir ça promet, quoi.
Sur de bonnes bases.
On part sur de bonnes bases, donc...
On s'est dit, on est peut-être sûr qu'il n'aime pas les humains.
Oui.
Peut-être qu'il aimait les animaux et la nature.
Le fond pour la protection du monde animal et de la nature sauvage.
Ouais.
Entre les mains d'un nazi, ça me rappelle un peu Ratzinger. C'est drôle, hein. Mais c'est des coïncidences. C'est pas leur faute, c'est leur passé. Son successeur, c'est encore mieux, puisque c'était... c'est pas vrai.
Tu n'as pas noté pas
relire...
le nom.
Si, non, mais j'arrive pas à relire ma note. C'était John Loudon. Qui est sud-africain.
Un des pères de l'apartheid.
Voilà, exactement. Son successeur, donc, ancien patron de Shell.
c'est déjà une grande marque de respect de l'environnement, hein, quand même.
Voilà. Oui, c'est génial. Et donc, il est passé de Shell à WWF, à la présidence de WWF. Non, c'est pas lui. Non, lui, alors, John Newton, c'est ancien patron de Shell, qui a quitté Shell. Ouais. Donc, il est américain, lui, il n'est pas des Pays-Bas. C'est pas tout de suite,
l'apartheid.
Donc, il a quitté Shell, il est devenu président de WWF. Donc, déjà là, encore une fois, dans la cohérence, c'est pas mal. Donc, on imagine les intérêts qu'il défendait, puisqu'il connaît les coulisses du monde du pétrole. Donc, il sait très bien que ce joujou WWF, dès le départ, il n'y a aucune équivoque, ça sert juste de caution. Et on sait que ça va permettre de soulever l'émotion des masses et de légitimer les pires choses, quoi. Puisque tu passes du patron de Shell au patron du WWF, on imagine pour quelle raison. C'est en 68 que naît la section sud-africaine, c'est là où je me suis planté. Donc la section sud-africaine est créée par Anton Rupert, qui lui est sud-africain, businessman, pro-apartheid, qui a toujours soutenu ce régime-là, qui possède alors entre autres Rothmans, donc international, donc les cigarettes, le tabac, voilà. Il a ouvert l'antenne sud-africaine du WWF. Donc, il possède une grande industrie internationale du tabac. Il possédait, parce qu'il est mort d'ailleurs, Cartier, entre autres. Hein.
D'accord.
Donc, les bijoux. Montblanc. Et il a été principal actionnaire de Canal+, aussi. Ah, par exemple. Donc, voilà.
Le fameux esprit canal.
Exactement. Ouais. Donc, je sais pas si ça vous fait la même chose qu'à moi, mais c'est un truc. On se regarde dans la quatrième dimension. Donc, t'as Shell, t'as des groupes comme Cartier, donc les diamants aussi, hein. L'industrie du tabac surtout. Et ces gens-là vont être à la tête du WWF. C'est magique.
Ça, c'est juste un jeu de lobbying, quoi, de prise de pouvoir, comme tu disais, d'un joujou qui va servir à cacher le reste, le greenwashing, quoi. Enfin,
à faire semblant de taper du poing sur la table, de proposer des mesurettes et des cache-misères, en fait, en matière d'écologie. Donc, la stratégie du WWF que décrit Nicolino. Il a été étudié, recherché, faire ses recherches dans les archives. Il a contacté aussi les différents bureaux à travers le monde de WWF. Personne ne répond jamais à ce qu'il demande, alors qu'il demande des choses précises, mais les rapports qu'il demande n'existent pas. Donc WWF qui brasse des milliards chaque année, investit dans des campagnes de publicité, dans du merchandising, dans tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas de service d'archives. Pour savoir qui faisait quoi et est-ce que les accusations d'avoir appartenu au parti nazi, entre autres de ses premiers présidents, sont réelles ou pas. Donc ce Rupert, Anton Rupert, quand même, donc on est en Afrique du Sud, WWF, jusqu'à ce que Nelson Mandela soit libéré en 94, qu'on mette fin au régime de l'apartheid, WWF, pendant une quinzaine d'années, n'a rien dit sur le trafic d'ivoire, par exemple, qui a vachement enrichi et renfloué les caisses de l'État sud-africain de l'époque. Après, il y a une stratégie assez marrante chez WWF, c'est la stratégie des 1001 donateurs. Donc, ils choisissent 1001 donateurs riches, auxquels ils demandent à chacun de donner chaque année 10 000 euros, 10 000 dollars. Donc ça va chercher dans les millions après, hein, 10 000 plus 10 000 plus 10 000. Et entre autres, dès le départ, on a notre ami Mobutu du Zaïre.
Un grand ami des animaux.
On a un certain ancien général McNamara, qui est juste responsable, qui a participé au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. Il a participé au Vietnam aussi.
Bah, le Napalm, c'est
lui. Le Napalm, c'est lui, par exemple. Donc, souteneur et donateur... du WWF. Il a été aussi président de la Banque mondiale de 68 à 81. C'est magique, c'est merveilleux. C'est juste... On a envie d'être complotiste un peu d'un coup. D'ailleurs, l'auteur en parle dans le livre et dit « Je suis pas du tout dans la théorie du complot. Ça peut faire rire, ça peut faire peur, mais ça n'a rien à voir. C'est juste... on parle de fric, là.
Bah, c'est du capitalisme. Exactement. Déjà, c'est des gens qui créent quelque chose qui leur sert, encore une fois, à cacher la misère. Mais c'est comme les fondations Bill Gates qui cachent l'exploitation des travailleurs de Chine ou d'Asie qui font 99,9% des ordinateurs dans des conditions de merde, mais il y a une fondation qui sert à dire nous on fait le bien quoi. C'est exactement le même principe, c'est pas c'est que du capitalisme.
Exactement. Du côté français, il y avait notre amie Bettencourt.
Ah oui, oui. Elle est partout en même temps.
Mais elle est vivante ou pas encore?
Elle n'est pas morte.
Elle n'est pas morte.
Non, sinon Sarkozy aurait.
Elle est juste sénile, d'accord. Non, je pensais qu'elle était morte.
Non, non.
Enfin, c'est tout comme. Voilà, ça fait rire que moi. Ça, c'est sénilité. Enfin, bref, du côté de la France, voilà, il y avait entre autres notre ami Bettencourt. Et il y avait aussi, par exemple, un promoteur immobilier qui a facilité l'implantation à Marne-la-Vallée de Disneyland et ça a juste détruit des hectares et des hectares et des hectares de terrain fertile.
Oui, mais maintenant il y a
Mickey. Disneyland grâce au WWF quand même.
C'est ça. Voilà. Parce qu'en même temps, enfin encore aujourd'hui, il y a WWF et ces autres associations, je sais pas si vous voulez le développer après, mais aujourd'hui, elles donnent encore leur aval
ouais,
pour je ne sais pas des salons de jardin en bois de je ne sais où
exactement,
qui sont
les labels qui s'achètent comme le label bio comme tout
c'est incroyable quoi.
Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot et France Nature Environnement. Je vais pas vous refaire l'historique comme WWF parce que c'est un peu moins éclatant, mais c'est tout aussi drôle. C'est des gens qui sont impliqués au niveau des industries du pétrole, du tabac, de la chimie. Nicolas Hulot, quand même, son émission, elle était sponsorisée par Ron Poulenc.
C'est ça, quoi.
Mais c'est Monsieur Écologie, ami de Chirac en plus, donc ça lui fait pas mal de garanties quand même. Une cohérence. Juste, il a rien dit quand Chirac a repris immédiatement les essais nucléaires à Mururoa, par exemple.
Bah non.
Donc le propos du livre, c'est que toutes ces grandes associations qui se moquent du bon vouloir, de la bonne volonté des militants de base, eux, bah, ils vous arrêtent dans la rue, c'est eux qui se prennent les insultes, les refus et qui sont dont on se moque dans la rue parce qu'ils sont là pour demander de l'argent, tout ça. Sauf que ces gens-là, eux-mêmes, ignorent les fonctionnements des associations qu'ils défendent. Oh.
Et oui. D'autant plus, parce que maintenant, de plus en plus, les gens qui t'arrêtent dans la...
Ce sont des contrats, en fait. Ouais.
Oui, c'est en contrat, c'est des salariés.
C'est même plus des militants.
Greenpeace, ouais, beaucoup d'énormément de salariés. Quoi.
Ah non, mais c'est même plus maintenant, c'est même un sous-traitant. C'est-à-dire, moi, je connais un gars, je vous présenterai un jour, où il travaille à la radio. Enfin, non, il ne travaille pas ici, je déconne. Qui pourra vous en parler. Il fait 7 associations en moyenne par semaine. C'est-à-dire que c'est une société qui met à disposition des gens pour aller faire la quête, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Et ils passent
des banquets d'information, voilà, des petits stands.
Ils passent d'Oxfam à WWF dans la
aussi à la lutte contre le cancer.
Voilà,
tout
ouais.
Ça,
c'est des gens, c'est un métier, c'est pas.
Ouais,
voilà.
C'est devenu. C'était né comme boulot d'appoint et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sociétés qui le font. Ouais, j'ai connu ça en Italie aussi. Enfin bref, toutes ces pseudo-associations de défense sont impliquées et elles ont toutes les mains sales. Elles ont participé au Grenelle de l'écologie, de l'environnement voulu par Sarkozy.
Le Grenelle du nucléaire en fait, hein, c'est son vrai nom.
Oui, nucléaire dont personne n'a parlé,
ben oui.
Les OGM personne n'en a parlé. La famine causée quand même par l'industrie, notamment de la viande, et ça il en parle longuement. Il avait aussi écrit d'ailleurs Bidoche.
Ouais.
Révélation sur Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Donc voilà, son point de vue il est assez politique et assez précis et ses sources sont vérifiables. De mon point de vue antispéciste, en fait, voilà, c'est là que je voulais en venir. À mon avis, là où, parce que Nicolino dénonce, mais il appartient, par exemple, à la FNE, à France Nature Environnement. Donc, il dit moi-même, je donne ma cotisation à une association, à une fédération, dont je dénonce les limites. Alors, je vais abréger parce que j'ai dépassé mon temps de parole.
Mais non.
Ouais, un petit peu quand même. Juste, alors, le point de vue antispéciste, c'est que Nicolino pose des questions quand même et il se dit pourquoi est-ce que tout ça, au final, ça flanche. Et il met l'accent aussi sur les soucis sur les limites des mouvements associatifs qui, à partir du moment où on centralise un bureau et il y a une tête qui va décider de quel sujet aborder, par exemple Greenpeace, ils ont un bureau à Amsterdam. Oui. qui décide quel sujet aborder. Alors que chaque Greenpeace au niveau national aurait des thématiques différentes à aborder, par exemple. En France, il pourrait parler, je ne sais pas, de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Mais non, en fait, ils vont leur donner un sujet qui était décidé en plus haut lieu. Donc, ils dénoncent un peu, ils proposent cette réflexion sur les limites des associations, puisque le militant de base qui voudrait faire plein de choses est limité. Dans l'histoire de Greenpeace, d'ailleurs, les militants les plus farouches ont été balayés. Après, il y a eu l'attentat du Rainbow Warrior, tout ça, en concordance avec Mitterrand
et
les essais nucléaires. En fait, moi, la question que je pose en plus de cette question-là, c'est est-ce que la limite n'est pas aussi le fait que Nicolino, comme tous les ministres de l'écologie, comme la plupart des militants qui s'occupent de l'environnement, n'est même pas végétarien, en fait. Et d'un point de vue antispéciste, donc, quand on est antispéciste, on s'intéresse évidemment à l'écologie, la perspective de l'alimentation au moins végétarienne, je répète en tant qu'antispéciste, est inévitable pour résoudre les problèmes d'écologie, pour résoudre l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé, mais là, on va faire perdre du fric à l'industrie pharmaceutique. Donc, encore une fois, tout est lié. Et, encore une fois, je répète, d'un point de vue antispéciste, donc ça n'engage que moi, je pense que Nicolino évite cette question-là, en fait. Et il devrait l'approfondir, notamment parce qu'il a écrit deux bouquins, un sur les pesticides et un sur l'industrie de la viande. Lui se pose la question des limites des milieux associatifs. Moi, je me pose la question de la limite de l'engagement jusqu'au bout, en fait, de la cohérence. Puisque quand on touche à toutes ces questions-là, et comme il le fait très en profondeur, on ne peut pas éviter de au moins devenir végétarien. Donc, s'il te plaît, Fabrice Nicolino, deviens végétarien. S'il te plaît.
Et je t'aimerais un peu plus.
Voilà. Moi, si tu as fini ?
Oui, j'ai fini. On mettra plein de liens sur le...
Non, moi, je vais juste ajouter un truc, mais moi, je crois, pour moi, ça relève d'une logique, ces associations et tout. Alors, j'ai été très pro-association à une époque, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça se faisait surtout un grand truc, c'est que ça tuait le politique, au sens noble du terme, et que on le voit beaucoup en ce moment avec une association qui m'agace, qui s'appelle les Colibris, qui est une association derrière Pierre Rabhi, je crois, c'est Pierre de son prénom.
C'est ça.
Et en fait, il y a un manque total de recul des gens qui sont dans ce truc-là, mais qui est hallucinant. C'est-à-dire
ils sont un peu new age.
Ouais, bah, ouais. C'est-à-dire que c'est un mélange de mysticisme, c'est très, très bizarre, mais le truc, c'est que ils partent du principe que chacun peut faire quelque chose à son niveau. Alors là, je peux être d'accord avec eux. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est que pour eux, il n'y a pas de lutte des classes. C'est-à-dire que le patron, du coup, il devrait faire un petit peu plus que le salarié parce qu'il a un peu plus de sous. Mais ça devient ridicule. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause la première cause qui est le capitalisme. Donc c'est... Et moi, je trouve...
Source de tout malheur.
Bah oui, je veux dire, c'est quand même notre système qui fait qu'on est, voilà. Et moi, ces assos, elles m'emmerdent pour ça, c'est qu'elles finissent par tuer le politique et que dès qu'on commence à faire de la politique ou du politique, on vous dit, ah non, mais là, t'es un extrémiste, faut que tu sortes. Et même sur des questions, mais très simples, il suffit de voir à Notre-Dame-des-Landes, toutes les associations dont tu parlais se sont barrées de Notre-Dame-des-Landes à partir du moment où les gens commençaient à affirmer du politique. Oui. C'est-à-dire un droit de vivre et un droit de vivre correctement, décemment et surtout de ne pas être exproprié pour le plaisir de quelques personnes qui
et
veulent
de
prendre
pas être tabassé par les flics
et de pas être tabassé tout à
là,
fait
on est forcé de parler d'antifascisme et les gens fuient après
et c'est exactement ça et là où moi je voulais quand même défendre un peu Nicolino sur un point c'est que je lui reconnais une chose et je vous invite à le lire il a fait un super billet sur son blog sur justement les violences à Notre-Dame-des-Landes et où il explique quand même que, qu'à un moment donné on est dans une forme de guerre et que forcément ça se fait pas avec des sourires et
dans
que
la neutralité,
voilà et que quand on vous tape dessus et des fois vous répondez et c'est normal.
Exactement.
Quoi. J'ai trouvé ça plutôt positif. Quoi.
D'ailleurs, il en parle à la fin du livre. Il évoque, il ouvre un peu sur le gaz de schiste, mm-hmm. un peu prophétique là-dessus.
Très
Borloo, il a quand même signé. Hein, il a donné 65 000 hectares exploitables. Voilà.
Bah oui.
En 2010.
Et à la rigueur, pour faire la défense de Nicolino, il n'en a pas besoin. Hein. Mais à la rigueur, justement, c'est ce que tu soulignais, Louli, sur l'incohérence, enfin l'incohérence ou les incohérences qu'il peut y avoir. À la rigueur, moi, c'est ça que j'aime bien aussi chez lui. C'est que
il les reconnaît.
Il les reconnaît. Et honnêtement,
son style d'écriture, c'est très humain, c'est très vivant.
Ouais, moi je trouve que
il prend les gens comme ils sont, quoi. Ouais, d'ailleurs, à la fin, il cite une liste de personnages dont il a parlé plus ou moins en bon terme. Il dit, mais c'est quand même, voilà, je les respecte.
Ouais, non, mais enfin, moi je le trouve vraiment intéressant parce que oui, effectivement, enfin, il le dit, enfin, on va pas refaire le débat parce que oui, ouais. Il dit qu'il cotise dans des assos, c'est quand même temps. Enfin, je trouve que ouais, ben, je pense qu'on a tous des choses où on n'a pas forcément une cohérence.
La photographie de toute personne mais engagée dans un quelconque milieu militant. En fait.
Mais oui, et puis oui, c'est ça en fait.
Cette contradiction-là.
Bah ouais, des fois t'es face à ta propre contradiction et tu dis merde, qu'est-ce que je fais?
Est-ce que j'en fais assez, pas assez? Mais est-ce que je suis vraiment en train de défendre ma cause jusqu'au bout?
Et je pense que déjà les reconnaître, je trouve que c'est déjà vachement intéressant. Ouais, on s'active, on va mettre des liens et tout. Ouais. Allez, on se met un peu de son. C'est parti.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 ou radiocanu.org. On vient d'écouter Juni Russo avec La Donna Immobile et c'est une icône des années 80 qui parle d'ambiguïté, de masculin, féminin, tout ça, et dont on a très allègrement évité de parler en fait de son homosexualité pendant toute sa vie. Elle a une super carrière, c'est une icône très populaire, mais on a un peu occulté le fait qu'elle écrivait avec sa compagne.
Bah oui.
Et qu'elle aborde des thèmes assez intéressants. Voilà.
J'ai remarqué que c'est souvent comme ça quand c'était des LGBT ou
dans
des
anards. Dans une autre mesure, Hervé Villard, mais beaucoup moins poétique et métaphysique.
Hervé Villard est moins poétique.
Ouais, mais ouais, les bon. Plus, c'est desquels, par contre.
Ah oui, c'est pour voilà. ça. Et donc, Jean-Yves,
oui.
tu voulais nous lire un article.
Oui. En fait, je vais faire une petite intro à ce texte. En fait, je suis retombé sur cet article par les réseaux sociaux. Oh, quelle magie. Et en fait, c'est un article qui a 2 ans, qui est de Mohamed Kassimi, j'espère que je ne me trompe pas, qui est un romancier algérien. En fait, j'ai eu cette envie de vous partager ça parce que hier, il y a eu une manif à Lyon. Je vous mettrai peut-être un lien de rue 89 qui fait un retour sur cette manif qui était contre l'islamophobie, où au final on a retrouvé un gros pêle-mêle de croyants et mélangés avec des gens de la manif pour tous, etc. Avec des slogans qui, moi, me font peur quand on parle d'un laïcisme. Enfin, c'est toujours moi, ça me fait un peu peur. Et quand, au micro, certains militants et donc croyants aussi dénonçaient la théorie du genre, etc. Donc moi, ça me fait un peu peur. Enfin bref, et tout ça, je me suis dit, tiens, on est toujours autour de ce voile, etc. Et je suis retombé sur ce texte, en fait, qui parle du voile, un symbole de 3000 ans de machisme religieux. Donc on dépasse bien le cadre d'une seule religion. Alors, je vous lis ça, je vais essayer de pas intervenir, de fermer ma bouche et juste de vous lire le texte.
Bah, si tu t'aimes, on pourrait
t'entendre. Oui, je me comprends.
Alors, lire en se taisant.
Oui, moi je peux le faire.
C'est magique.
Alors,
sans les mains.
Alors, le voile est commun aux 3 religions monothéistes. En fait, c'est le regard d'un écrivain algérien, sur un signe religieux qui, selon lui, est un marqueur de la soumission de la femme à l'homme. Depuis des années, tout le monde parle du voile. De plus en plus de personnes portent le voile, pas seulement à Bamako ou au Caire, mais aussi à Londres, Paris ou New York. Symbole religieux ou signe religieux? Que signifie ce carré de tissu qui met la planète en émoi? Intrigué par autant de questions, j'ai décidé de consacrer quelques semaines de mes vacances à compulser les livres d'histoire religieuse pour remonter aux racines du signe, pour ne pas dire du mal. Et là, en remontant au plus loin des traces écrites des civilisations antiques, en fouillant dans les annales des histoires sumériennes, j'ai découvert avec stupéfaction que le voile découle à l'origine d'une illusion d'optique. En effet, une croyance sémitique très ancienne attestée en Mésopotamie considérait la chevelure de la femme comme le reflet de la toison pubienne. Donc, il a fallu très tôt lui couvrir la tête, afin de ne lui occulter le sexe. Cette croyance était si répandue dans les pays d'Orient, notamment en Mésopotamie, qu'elle a fini par avoir force de loi. Aussi, le port du voile est-il rendu obligatoire dès le XIIe siècle avant Jésus-Christ par le roi d'Assyrie, Tiglath-Phalazar Ier, qui disait « Les femmes mariées n'auront pas leur tête couverte, les prostituées ne seront pas voilées ». C'était 17 siècles avant Mahomet et cela se passait en Assyrie, l'Irak d'aujourd'hui. Dans la Bible hébraïque, on ne trouve aucune trace de cette coutume. Cependant, la tradition juive a longtemps considéré qu'une femme devait se couvrir les cheveux en signe de modestie devant les hommes. Vous avez même le bruit des pages qui
tournent. Ouais, on dirait la messe.
Salaud. Et il faudra attendre l'avènement du christianisme pour que le voile devienne une obligation théologique, un préalable à la relation entre la femme et Dieu. C'est saint Paul qui, le premier, a imposé le voile aux femmes en avançant des arguments strictement religieux. Dans l'épître aux Corinthiens, il écrit « Toute femme qui prie ou parle sous l'inspiration de Dieu sans voile sur la tête commet une faute identique, comme si elle avait la tête rasée. Si donc une femme ne porte pas le voile, qu'elle se tonde. Ou plutôt, qu'elle mette un voile, puisque c'est une faute pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou rasés. » Et plus loin, l'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête. Il est à l'image et à la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête la marque de sa dépendance. Ensuite, l'Église s'en servira à l'égard des femmes pour les considérer comme des créatures inférieures par nature et selon le droit. On voit qu'à l'origine, le voile est utilisé comme instrument de ségrégation qui fait de la femme un être inférieur, non seulement vis-à-vis de l'homme, mais aussi de Dieu. Il est intéressant de noter que ce passage des Corinthiens est repris aujourd'hui pour la plupart des sites islamiques qui font l'apologie du foulard. Et dans l'islam, me direz-vous. Pardon. 7 siècles plus tard, naît l'islam. Le Coran consacre au voile ses passages. Et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, de ne montrer de leurs atours que ce qui pourrait pardon, que tous ceux qui en paraient et qu'elles rabattent leurs étoffes sur leur poitrine. C'est le Coran, et entre parenthèses, c'est 34, verset 31, ou j'ai un truc comme ça, je pense.
Je suis désolé. Oui, ça doit être ça.
C'est la référence.
Oui, mais je préférais la donner. Mmh. Enfin, dans la sourate 33, à l'Azab, les coalisés, au verset 59, il est dit « Prophète, dis à tes épouses, à tes femmes et aux femmes de croyants, de ramener sur elles de grandes étoffes, et elles en seront plus vite reconnues, et éviteront d'être offensées. » Alors, il continue l'écrivain en disant « Sans vouloir être aussi pointilliste que les orthodoxes, je ferai remarquer que nulle part dans ces sourates, il n'est fait explicitement mention de voile, hijab, recouvrant le visage, cachant les cheveux et encore moins tout le corps. Dans la première sourate, le Coran appelle simplement les croyantes à recouvrir leur poitrine. La très sérieuse encyclopédie de l'islam aux éditions LED apporte cette explication. Dans l'Arabie pré-islamique, une coutume tribale voulait que durant les batailles, les femmes montent en haut des dunes et montrent leur poitrine à leurs époux guerriers pour exciter leurs ardeurs au combat et les inciter à revenir vivants afin de profiter de ces charmes. Le verset en question aurait été inspiré au prophète pour instaurer un nouvel ordre moral au sein des tribus. Quant au deuxième verset, il a fait l'objet de maintes lectures et controverses. La plus intéressante étant celle d'un grand imam qui, à l'âge d'or de Bagdad, au 9e siècle, en fit cette lecture originale. Le Seigneur n'a recommandé le voile qu'aux femmes du prophète. Toute musulmane qui se voilerait le visage se ferait passer à tort pour la sienne et serait donc passible de 80 coups de fouet. Le voile est resté depuis le signe distinctif des riches citadines et demeura inconnu dans les campagnes où les hommes ne songeaient pas à voiler les femmes en raison des travaux qu'ils leur confiaient. Je suis désolé, je le dis, alors ça me... Je respire un peu. Hein. Alors, et il y a eu un avant et un après révolution iranienne de 79. C'est la révolution iranienne de 1979 qui entraîna la généralisation du voile. Le hijab, innovation sortie tout droit de la tête des tailleurs islamistes, a supplanté dans les pays du Maghreb le haïk traditionnel, un carré de tissu blanc. Bien sûr, ce sont là les signes d'une société arabo-musulmane en crise, sans projet, sans perspective, soumise à des régimes totalitaires, qui n'a pour unique espace de respiration d'utopie que la religion. Pierre Bourdieu expliquait que dans l'Algérie coloniale, l'homme colonisé renvoyait sur la femme, toute la violence subie de la part du colonisateur. Désormais, l'homme musulman renvoie sur la femme tout le chaos qui lui fait subir la crise planétaire. Dans ces pays sans liberté, l'islamisme fonctionne comme une eschatologie. Il efface toutes les aspérités de la vie pour ne faire miroiter que les plaisirs de son vaste paradis. Ici se pose également la question de la place de l'islam chez l'autre. Contrairement au judaïsme qui s'est forgé dans l'exil, au christianisme qui s'est inventé dans les persécutions, l'islam est venu au monde comme une religion d'État et une religion de conquête. Il n'a pas été souvent minoritaire et la place qu'il a accordée aux autres religions n'a pas été un exemple de tolérance. Et qu'on en finisse également avec cette parité des signes religieux. À Rome ou à Jérusalem, on ne lapide pas ceux qui ont oublié la croix ou leur étoile de David. En revanche, à Téhéran, de Téhéran à Khartoum, de Kaboul à Casablanca, chaque jour des femmes sont violées, vitriolées, assassinées, fouettées ou licenciées parce qu'elles ne se sont pas couvertes le visage et le corps. Le hijab est l'effacement et l'abolition virtuelle de la femme. Tous les écrits fondamentalistes l'affirment. Le voile est obligatoire car il doit cacher la aura, les parties du corps de la femme. C'est-à-dire que tout son corps est perçu comme une partie honteuse. Le hijab joue la fonction que lui a assigné Paul il y a 2000 ans, signifier à la femme en public qu'elle est un être inférieur, bon à museler. Toute fille pubère est donc perçue comme une partie honteuse. Elle est éduquée pour se percevoir depuis l'âge de 8 ans comme un objet sexuel potentiel qui doit être dérobé aux yeux de la foule concupiscente. Derrière chaque voile, il y a 3000 ans de haine envers les femmes qui nous regardent. Voilà ce petit article, qui m'a pris déjà pas mal de temps. J'ai pas forcément... Enfin, je sais pas si vous avez, vous, des questions ou des réactions, etc. Enfin, moi, je... C'est en fait... Enfin, je trouve que ça résume vachement bien En tout cas, mon approche de tout ce drame-là, c'est qu'au final, aujourd'hui, on instrumentalise, je pense, des gens au nom d'une religion, alors que c'est du racisme, en fait. Quand je lis des gens qui me disent « Je me suis fait prendre... Enfin, j'ai pas reçu d'appart parce que je suis musulman. » Non, je crois pas. Franchement, je pense foncièrement, c'est juste parce que t'as pas la gueule qui va à ce proprio. C'est juste parce qu'il est facho, en fait. Tu aurais pu être musulman et avoir une tête de bon français bien rasée sur les côtés, t'aurais eu ton appart. Parce que je pense foncièrement qu'il s'en branle. Parce que c'est du délit de faciès. Pour moi, il y a une... Enfin voilà, il y a des trucs où il y a des erreurs, mais après c'est un avis très personnel. Et puis voilà.
Ok, on en reste là.
Non, mais oui, enfin, je... Bah ouais, on en reste là.
Oui, ouais, non.
Tu voulais dire quelque chose, Louli?
Oui, parce que c'est oui. Ton propos, c'est pas le même que le texte de Cassini. C'est-à-dire que d'après toi, les gens confondent une phobie envers telle ou telle religion. Et évidemment, ici, personne ne soutient aucun clergé, clairement. Ce serait même contradictoire.
Ah, à part Céline Dion.
Mais... Oui, mais voilà. C'est ma liberté de penser. Ma liberté de penser. En fait, toi, tu dis, ce que tu dis, c'est que les gens confondent une pseudophobie pour telle ou telle religion avec, en fait, ce qui est juste de la discrimination.
Mais quoi. Oui, oui.
Si
mais
ça n'avait pas été pour la religion qui ne se voit pas forcément sur la tête des gens, qui pourrait penser que moi, je prie Céline Dion je
Mais sais oui, pas. C'est ça.
Par exemple, parce que je porte pas mon C n'est pas visible. Et les tatouages d'islam, il n'est pas visible. Oui, par contre, le propos de Cassimi, je trouve qu'il est différent du tien, par exemple. En tant que spectateur à l'Angoulême.
Peut-être.
Parce que lui, il a quand même un point de vue quasiment. Enfin, ça me rappelle un peu l'orientalisme, où en gros, il englobe. Enfin, il parle d'une façon. Il est très orienté contre l'islam. Enfin, il est remonté contre l'islam, apparemment. Ça doit être par rapport à son histoire perso, vu son nom de famille. Enfin, c'est. Oui, il est algérien, c'est ça ?
Il est algérien.
Donc, je suppose qu'il a reçu. Enfin, qu'il a côtoyé une certaine communauté musulmane.
En l'occurrence.
Ouais. Et d'ailleurs, je crois que, enfin, lui, non, ils sont pas très branchés. Enfin, ils sont théologues dans sa famille, voilà. Ils sont théologues, mais justement anticléricaux, il me semble, de cet auteur-là, ouais, Cassimi, d'un milieu assez bourgeois, machin et tout. Et je pense qu'il a une aversion, en fait. Il est très remonté contre, ben, en particulier, l'islam, dans ce que tu viens de lire. Et c'est un peu, je trouve, c'est peut-être un raccourci, parce que c'est un extrait que tu as lu d'une de ses œuvres, ou c'est un article.
Non, c'est un article.
C'est un article,
ouais,
qu'il a posté. On a l'impression qu'il s'adresse à une seule forme d'islam, une seule communauté, d'être quasi primitif, en fait. Ça me rappelle un peu l'orientalisme, son point de vue à lui, où il n'y a pas de... il occulte un peu des milliers d'années d'histoire, de tradition, de culture, et on croirait que certains peuples sont nés sans libre arbitre et sans autodétermination, et que forcément, dans cet article-là, en tout cas, c'est ce que j'entends comme spectateur, que forcément c'est un homme méchant qui n'aime pas sa femme, en fait. Moi, on a l'impression qu'il parle d'une seule forme d'islam.
Moi, je suis l'inverse de toi, Louli.
Mais bon, tu reçois la même
pardon,
chose.
Non, je reçois l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'au contraire, il fait de l'histoire. C'est-à-dire qu'il explique ce qui est cultuel de ce qui est culturel. Mmh. Et pour moi, il explique dans l'article justement que le voile n'est pas au départ cultuel, mais qu'il est bien repris dans la religion, quelle que soit la religion d'ailleurs, enfin une des trois religions monothéistes, venant au départ d'un culturel et passant dans le cultuel. C'est pour moi, c'est plus ça qu'il explique. Et après, moi, sur l'article en lui-même, étant un anticlérical convaincu, j'ai pas trop de problèmes à taper sur les religions et à taper sur tous les symboles. Par contre, moi, je vais pas m'attarder sur l'article, mais je vais plutôt parler de la manif qu'il y a eu, parce que ça me gonfle. Et que, désolé, il faut que je le dise. Moi, je trouve juste dégueulasse, pardon de le dire, mes copains de Rébellion, que Rébellion passe une manif où on va retrouver les gens que j'ai croisés. Non pas du côté de la manif pour les droits et l'égalité, mais qui distribuait pour la manif pour tous, et qui était dans mon quartier, qui est, je ne donnerai pas mon quartier, mais qui est de l'autre côté du périph, et qui venait en fait expliquer que parce que on allait me donner à moi, qui suis pas vu comme impur, des droits un petit peu plus larges que ce qu'on avait avant, j'allais créer l'apocalypse sur Terre, entraîner le fait qu'on couche avec des enfants, et accessoirement, si j'avais deux minutes, le fait que les femmes se mettent à brûler en place publique. Mais c'est des termes véridiques, hein, c'est des choses qu'on m'a dit. Et ces gens-là, je les ai vus sur les photos qui sont sur l'article de rue 89 et qui étaient à la tribune. Alors moi, je veux bien que mes amis m'expliquent, parce qu'on est des mêmes combats généralement, ce qu'on est allé foutre avec eux. Et je veux bien qu'on vienne me dire ici qu'il n'y a pas de problème à aller manifester avec des intégristes et avec des fascistes, je le dis comme je le pense. Parce que si quelqu'un veut venir, la causerie elle est ouverte, moi je suis prêt à venir. Alors je vais dire des noms, hein, parce qu'il y a des signataires. Donc moi, si des copains du Stras veulent venir ici m'expliquer ce qu'ils sont allés foutre avec des gens comme ça, je suis preneur, venez m'expliquer, parce que moi, là j'ai pas compris. Et je suis pas prêt de comprendre qu'on soit aux côtés de gens qui tiennent des propos non seulement même pas discriminatoires, mais rétrogrades, et même dangereux, et qui ont envie de me foutre, moi, là je parle en tant que Fabien, me foutre moi dans une case qui serait plutôt une case fermée avec une porte, et si on pouvait tourner la clé pour éviter que je sorte, ça les arrangerait. Donc voilà, je voudrais juste qu'on vienne m'expliquer, parce que ça m'a choqué, je le dis comme je le pense, et je pense qu'à force de vouloir se détacher à tout prix dès la bien-pensance bourgeoise et blablabla et blablabla, ben on finit par aller donner la main à nos ennemis pour faire bien. Voilà. Pardon. C'est un coup de gueule. Bah, mais j'avais besoin de le pousser.
D'aller tricoter avec ceux de la manif pour tous, ouais.
C'est... Voilà. Moi, ça me pose problème. Et après, pour finir sur l'article, moi, je connais les positions de l'auteur. Je sais qu'il est assez tranchant, mais je pense que dans son contexte à lui, en tant qu'Algérien, et vu ce que vit l'Algérie aujourd'hui, et notamment la réinstrumentalisation de l'islam au sein de l'Algérie par Bouteflika, c'est important qu'il y ait des gens qui se coupent. Mais voilà. Mais je pense que c'est plus de son point de vue. Là, j'essaye de me placer à sa place. Mais voilà.
Mais parce que après,
je trouve que son propos manque de nuance, en fait.
Oui, mais il est pas là. Il répond sans nuance.
Je trouve que le truc qui paraît de cet article-là, c'est que selon lui, il n'existe aucune femme au monde qui puisse être à la fois voilée et se sentir libre.
Non, représenter la liberté plutôt. Ça, je pense que c'est plus ça son principe.
Oui, mais c'est son truc à lui, c'est son point de vue à lui.
Oui, mais moi, en tant qu'anticlérical et d'origine européenne, oui, je suis plus remonté contre le catholique parce que c'est cette violence-là que j'ai subie. Ouais. C'est cette religion-là qui m'a oppressé, parce que je reste persuadé que j'ai été oppressé par cette religion-là, comme toutes les religions. Et que pour moi, oui, je sais très bien qu'il y a des croyants qui sont des individus. Mais.
Exactement, oui.
Mais je le sais très bien.
Mais en écoutant son article.
Oui, mais après, sauf que t'as aussi l'effet inverse aussi qui existe, quoi. Enfin, c'est. Moi, je suis désolé, j'arrive pas à forcément prendre de gants avec les religions non plus, quoi. Enfin, je suis pas là pour les caresser parce que je sais que le jour où eux ils seront au pouvoir, ils prendront.
Ils le
aucune...
sont déjà, ils se gênent pas, oui.
Pour, oui, mais ils ne prendront aucun gant pour nous caresser.
Exactement.
Aucun.
Ouais.
Mais et ça, quelle que soit l'obédience. Hein. Alors là. Voilà.
Bah, comme tout système mafieux, là-dessus, il n'y a aucun souci. Juste, son propos n'est pas du tout nuancé, donc on a l'impression qu'il parle d'une espèce d'entité qui est tellement nuancée et subtile. Il y a énormément de façons différentes de croire en ce qu'on veut. Tu peux être anticlérical, mais les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, que ce soit des âneries ou pas.
Non, mais c'est oui, pas, j'enlève rien à leur liberté.
Mais je parle de l'article de Cassim, mais je parle pas de Jean-Yves.
Mais je trouve que
c'est un parti pris, en fait.
Mais oui.
Mais je pense que c'est ça.
Oui.
Enfin, moi, j'ai l'impression que dans son article, il cherche à répondre de la façon dont les religieux, justement, parlent. Parce que je crois qu'il répond vraiment sur le ton de tu écoutes des religieux et te dis nous, les musulmans, on est comme ça. Et du coup, eux aussi, ils nuancent pas. Et je pense que son article, bah, il est en réponse à la non-nuance. Mais c'est peut-être, je me trompe. Mais moi, je le vois un petit peu comme les articles que tu avais dans l'assiette au beurre dans les années 1900 en France, ou des choses comme ça, qui étaient des articles sans nuance, mais qui étaient là pour secouer, parce qu'il y avait besoin de secouer à ce moment-là. Et voilà, moi,
Et puis après, est-ce qu'on a la nuance dès qu'on parle de quelqu'un qui a des origines du Maghreb, dès qu'on dit, on parle de ces gens-là et qu'on dit musulman ? Je reste persuadé qu'au Maghreb, il y a des cathos, des juifs, et il y a aussi des athées.
Oui, il a beaucoup de chances d'avoir fréquenté, il y a fortement, statistiquement, il y a des chances pour qu'il ait connu des musulmans quand même.
Oui,
voilà, c'est ça. Voilà. Statistiquement, oui.
Statistiquement.
Oui. Bon, on passe à la musique.
Je pense comprendre qu'il est athée quand même.
Vous voulez, il y a des chances.
Ah, bah oui.
Bon, vous voulez vraiment pas que je fasse mon sujet
On y va. Allez.
Et non à la manif pour tous.
Voilà, exactement.
Allez, on y va.
Le لبنات كامل شابين وعندهم الزهر عندهم شعر طويل ويروحوا للبحر يلبسوا غير في الحطات ويروحوا للسهرات وانا كي جدلتي لا 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 وانا مصباح العشية نخدم في الشغل اللي يجي يحقر فيا وعليا يتمهبل وكرات مغسيل المعن الحوايج والحديد نطيب ونعجن خايفة على حليب لا يفيد يا لو كان جيت كل وحدة وين راحت صغار عليا جيحات تبعوا في المسلسلات مساكن طمعات تجي واحد يديهم فوق عود ابيض رفد الورد واخويا خارج فيا كي يشوفون يتقلق يضل يعاس فيا على والو يتقلق كاشنها نربطو كي يكون غارق في المنام في بير غمق نحطو خطر يخاف من الظلام آه 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 يا لو كان جيت راجع كنت صغيرة قولوا لي راك كبيرة ما تلعبيش برا ما تنسيش باللي انت مرا ولات برا يلعبوا والطفلة دير العقل هما يديروا كيما يحبوا تعاونينا في الشغل يا لو كان جيت راجع ما تديروا
Vous êtes toujours à la causerie sur Radio Canu, toujours de 22 à 23 heures. Et on vient de s'écouter Souad Massi avec le titre Samira Meskina, qui est un super titre si vous avez l'occasion de lire les paroles. Voilà. Et on va passer directement...
C'est une belle balade, je trouve.
Ouais, et pourtant le texte, il est vraiment intéressant. Et on passe au sujet de Fab, parce qu'on est hyper à la bourre.
Et ce soir, ce sera la causerie 22h, 23h et plus, parce que je ne vais pas non plus réduire mon sujet à 90%, je ne vais pas y arriver.
Tu voulais nous parler
d'un film et un petit peu plus largement d'un sentiment que j'ai. Voilà. Ouais. Alors le film, c'est un film tout récent qui vient de sortir. C'est Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. Donc c'est un film de 57 qui est une adaptation du roman d'Humphrey Cobb qui était sorti en 1935. Et pour ceux qui connaissent Humphrey Cobb, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la Première Guerre mondiale, enfin qui a écrit ce roman sur la Première Guerre mondiale en particulier, et qui avait énormément choqué parce que c'est la première fois qu'on parlait des tranchées vues de l'intérieur et notamment vues du point de vue des soldats. Donc c'était assez nouveau, hein, en 35, c'est que 20 ans après la première guerre, et il y avait des récits de soldats, mais par contre ce qui n'avait jamais été fait, c'était de faire une sorte de récit global, c'est-à-dire du commandement aux soldats. Et Kubrick, en 57, va donc adapter Les Sentiers de la Gloire. Alors je vous résume l'histoire, enfin le début, parce qu'après tout, vous regarderez le film pour avoir la fin, parce que sinon c'est pas marrant. Oui. Donc en fait, c'est un général qui s'appelle Broulard, qui fait miroiter en fait de l'avancement un général de brigade, alors c'était une sorte de général intermédiaire à l'époque, qui s'appelle Miro, et il lui dit, si tu lances en gros tes hommes sur une position allemande qui est dite imprenable, et que tu arrives à la prendre, et ben tu vas devenir général toi aussi à la place du général, quoi, calife à la place du calife. Donc Miro va lancer ses hommes sur cette position, sachant qu'ils ne sont pas du tout soutenus, qu'il n'y a quasiment aucun bombardement pour les couvrir, comme on faisait à l'époque. Et c'est un échec, et c'est une boucherie, quoi. Parce que c'est quand même la Première Guerre mondiale, hein, c'est oui. Verdun. Donc c'est une boucherie absolue. Mais le petit monsieur Miro, il est vachement choqué, parce qu'il dit c'est la faute du colonel Dax, qui était à la tête des hommes qu'il a envoyés. Et moi, ça me touche dans mon honneur que vous n'y soyez pas arrivé. Donc je demande qu'une centaine ou 150 personnes soient fusillées pour l'exemple, hein, parce que vous avez déshonoré mon honneur. Voilà.
Ça mange pas de pain.
Et puis, ça mange pas de pain. Alors ça, c'est le début de l'histoire. S'ensuit en fait une espèce de dialogue de fou entre ces différents généraux qui vont réduire finalement les 150 hommes à 3 qui vont être pris au hasard dans chacune des brigades, parce qu'il y a 3 brigades, et puis qu'on va les fusiller pour l'exemple, parce que après tout ils ont déshonoré l'armée, ils ont déshonoré ce brave monsieur Miro, et c'est dégueulasse, donc il faut les fusiller. Voilà. Et ça, en fait, c'était assez nouveau. Je m'arrête là, parce que je vous laisserai voir le film pour savoir comment les choses tournent. Ça tourne pas très bien, je vous le dis tout de suite, mais il faut être très clair, c'est quand même la Première Guerre mondiale, et c'est un film très réaliste. C'est en fait la première fois qu'à l'écran, au cinéma, était porté par des studios d'importance, parce que c'est ça qui est important d'ailleurs, c'est pas oublier que c'est United Artists qui produit le film, c'est-à-dire le plus grand studio de l'époque. Et par un auteur par un réalisateur qui n'est pas la moitié d'un abruti, qui est Stanley Kubrick, qui n'a fait quasiment que des chefs-d'œuvre dans toute sa carrière.
D'ailleurs, ils ont été accusés de United Artists de communisme.
Oui, tout à fait. Ouais. Et pas que par rapport à ce film-là, mais par rapport à plusieurs films,
c'est
notamment.
C'est un syndicat en fait. Ils se voulaient un syndicat dont il y avait Marilyn aussi.
Ouais, tout à fait. Et ils ont été accusés de ça parce qu'ils avaient produit Chaplin et que Chaplin était classé. Et du coup, quand le film sort, qu'est-ce qui se passe en France? C'est la levée de bouclier. Et l'État français va énormément donner d'argent, a priori, à tous les trucs d'anciens combattants de l'époque, hein, dans les années 50, pour leur dire, allez-y, faites pression sur United Artists pour que le film ne soit pas distribué en France. Et ça va marcher en France et dans plusieurs pays d'Europe, en Belgique, en Suisse, voilà. Et le film ne sera distribué en France qu'en 1975. 57, 75, vous voyez.
Ça fait quand même quelques années de
Quelques
science.
Années de perdu, quand même, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ce film? Eh ben, on lui reproche d'être trop réaliste, tout simplement. Et on lui reproche de dire que, il y a des gens qui ont fait fusiller d'autres gens, pour l'exemple, parce que leur petit honneur était un peu entaché, voyez-vous. Et que, quand même, ça avait un peu brimé leur avancement. Alors, ils ont tout sorti pour pourrir ce film. Ils ont dit que c'était pas réaliste, parce qu'il y a un procès dans le film et que le procès était fait façon américaine, et que en même temps, les uniformes ressemblaient pas aux uniformes français, et que la brigade, elle s'appelait 700 et quelques, alors que ça s'arrêtait à 438. Et là-dessus, Kubrick, il répond à une chose très simple, il dit, c'est normal, Humphrey Cobb, quand il fait son livre, il fait une fiction. C'est-à-dire que son but,
ça reste, oui.
C'est pas de faire un documentaire, il fait une fiction, donc lui aussi entre dans son bouquin, comme dans le film, il entre des éléments qui n'existent pas dans la vie.
Fictif,
c'est le but. Mais ce qui est important, c'est le fond, parce que ce que Kubrick cherche à dénoncer, c'est la guerre et la saloperie de la guerre. Et comme il le dira lui-même, c'est pas spécifiquement la première, c'est toutes les guerres. Et il va le montrer plus tard, parce qu'il a fait deux autres films qui ont marqué. Il y a Full Metal Jacket, qui était un plaidoyer contre la guerre assez magnifique. Et même dans 2001, il va réussir à caser quand même que l'être humain avait le choix entre prendre un gourdin pour aller se nourrir ou prendre un gourdin et taper sur son voisin. Et il va choisir de taper sur son voisin. Enfin bref, c'est un thème très récurrent
sur les animaux.
sur les animaux. Et en fait, tout ça pour dire que chez Kubrick, c'est très prégnant dans son œuvre d'être antimilitariste et profondément antimilitariste. Il le montrera aussi dans Barry Lyndon, où il est aussi accusé de cracher sur les Français, comme dans ce film-là, parce qu'il montre que les Français étaient de villes, des gens qui venaient, qui pillaient, qui violaient, comme toutes les autres armées, et qu'ils n'étaient pas plus purs que les autres, et on l'avait accusé d'entacher Napoléon, enfin, je ne sais plus qui. Donc c'était un peu exceptionnel. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est que ce film, il passe très très peu à la télévision. Il n'y a qu'une seule chaîne qui le programme en général à 20h30, 20h50, c'est Arte. C'est-à-dire que généralement, ailleurs, il est programmé à 23h, minuit, voire 1h du matin, dans le ciné-club, parce que voilà. Et moi, ça me dérange parce que d'abord, c'est un film magnifique. Ensuite, il est extrêmement bien joué, même s'il y a Kirk Douglas et qu'il n'a pas toujours très bien tourné. mais voilà. Et il est très bien joué. Et surtout, il pose une question de fond. C'est quoi la guerre? Parce que c'est ça qui est dans ce film qui est intéressant. C'est qu'est-ce que c'est qu'une guerre? Ça sert à quoi? Pourquoi on l'a fait? Et Kubrick, quand il a été interrogé là-dessus, il a eu, justement, tu parlais du communisme, machin, il avait une vision très réaliste. Il disait la Première Guerre mondiale, pour lui, c'est, et puis pour moi d'ailleurs aussi au passage, c'était la récupération du Rhin et des mines de potasse et de charbon qui se trouvaient le long du Rhin. Et ça a servi, on a envoyé des millions de gens être tués juste pour récupérer des données, des biens économiques, voilà, des sous-sols. Et quand il dit ça, forcément ça marche pas, parce que nous on essaye de nous glorifier, nos gentils poilus, tout ça, oui. Et puis les gens qui vont mourir pour la grandeur de la patrie, de la France et tout, Kubrick...
Pour qu'on ait le droit de vote. Ils sont morts pour qu'on ait le droit
de vote. Ouais, voilà, ce genre de phrase. Et Kubrick lui, il dit non, en fait, en général, le soldat, lui, il y va pas pour ça, il y va parce que, un, on l'oblige d'y aller, c'est la conscription, deux, il a pas forcément du tout envie d'être là, et trois, il va mourir, pourquoi? Pour des gens qui sont assis dans des bureaux, et quand leur honneur est un tout petit peu entaché, parce qu'ils sont tous fils de bonne famille, hein, de ces généraux, machin. Ils vont faire fusiller des gens pour l'honneur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire que aujourd'hui, on est dans un drôle de climat parce qu'on ne dénonce plus l'armée. On ne dénonce plus l'armée, on ne dénonce plus la guerre. Parce que depuis que l'armée est devenue professionnelle, en Europe, quasiment partout, on fait comme si elle n'existait plus, comme si on ne faisait plus de guerre, comme si elle ne servait plus, comme si elle n'était plus utilisée. Et pourtant, si vous regardez la France, aujourd'hui, les opérations extérieures, comme on dit, de la France, c'est quand même aujourd'hui 7 pays. Donc nos forces militaires sont présentes dans 7 pays et ont le droit de tuer dans ces pays-là. Et on fait la guerre, on n'y va pas juste pour dire « Ouais, salut !»
Ce sont des missions de paix, ça.
Voilà, c'est des missions de paix. Mais ça, c'était Orwell, la guerre, c'est la paix. Et c'est génial, c'est-à-dire qu'on fait comme si ça n'existait pas. Il n'y a plus de mouvement aujourd'hui. Il existe des mouvements antimilitaristes, mais dans les milieux militants en général, et en particulier dans les milieux où ça devrait être très prégnant, notamment les milieux anarchistes, on n'en parle quasiment plus. On ne fait plus de manifestations contre les guerres. On n'explique plus pourquoi la guerre, ça n'a pas lieu d'être. Et on ne fait plus la guerre à la guerre. Vous voyez un petit peu le truc, c'était un slogan qui marchait bien. Mais voilà. Et moi, ça m'interpelle pas mal. Et à tel point qu'il y a des gens que je connais qui ont découvert la Première Guerre mondiale par le film de Kubrick sur Arte et qui écrivaient « Mais c'est dingue !» Alors donc, on fusillait les gens pour l'exemple. Et les fusillés pour l'exemple, c'est même plus dans la mémoire collective. Pourtant, c'est des milliers de personnes qui ont été fusillées pour l'exemple, qui ont été accusées à l'époque. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire que des fois, la fiction, ça nous ramène à la réalité. Et que moi, ce qui m'embête un peu aujourd'hui, c'est qu'on refuse de dire que la guerre, ça sert avant tout les intérêts économiques, ça sert avant tout les puissants. Que même si l'armée est professionnalisée, elle sert avant tout à protéger les gens qui ont du fric et à les protéger les sous-sols, encore une fois, parce qu'il suffit de regarder où la France ou les États-Unis interviennent, c'est rarement dans des régions où il n'y a rien à récupérer.
C'est vrai.
Voilà. Mais c'est pareil pour la Russie.
Bien évidemment.
J'ai une pensée pour la Crimée en ce moment, c'est exactement le même problème, c'est que c'est que des problèmes de géostratégie, de sous-sol, d'accès à la merde, mais c'est jamais pour des grandeurs de la nation, du drapeau, tout ça c'est que de la connerie, on s'en fout des drapeaux.
De découvrir ce matin que Poutine était méchant en fait.
Oui, voilà. Voilà, mais ça c'est ça et c'est que je pense qu'il est important qu'on retrouve un phrasé antimilitariste, qu'on repose clairement les choses, de rappeler que une armée, ça sert avant tout à servir des intérêts capitalistiques et privés, avant de servir l'État, et ce qui n'est pas beaucoup mieux d'ailleurs, et avant de servir le peuple, et ce qui est encore pire, mais enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout un outil.
Ils sont même là pour tirer sur le peuple. Hein.
Qui sert avant tout à...
Si on leur demande, ils sont censés le faire.
Exactement, à flinguer les gens. Et je vais finir sur une chose. Depuis quelques années maintenant, et depuis les attentats des années 90, un gouvernement, je crois de gauche à l'époque, avait trouvé la bonne idée de mettre des militaires partout dans les gares pour dire on va éviter d'avoir des attentats grâce à des gentils militaires qui sont partout. Moi, je vais vous dire franchement, mon point de vue, c'est qu'on a gentiment, tout doucement, habitué la population à avoir des gens en armes, qui sont donc prêts à tirer, à côté d'eux, comme si c'était parfaitement normal, bien pas de souci. T'as un FAMAS, pas de problème, t'as 4 mètres. Là, on dit oui, mais ils sont déchargés. Il faut pas 3 minutes pour faire charger un FAMAS. Et on a, comme ça, des gens qui se baladent, qui sont armés, qui sont des militaires, donc qui ne répondent pas aux mêmes règles de droit que les citoyens lambda. Et on a habitué les gens petit à petit à être au contact de l'armée, à avoir l'armée sur les pieds. Et ça a accompagné tout un mouvement qui a fait qu'on a vu apparaître dans les mêmes périodes des choses comme la BAC, qui était une police au-dessus des lois. Parce que c'est normal, il faut être au-dessus des lois pour sauver les citoyens. On a vu apparaître des CRS de mieux en mieux armés, qui ressemblent de plus en plus à des militaires eux-mêmes. Hein, parce qu'on voit comment ils chargent, ils frappent, ils mutilent les manifestants. Et ben oui, c'est une forme d'armée dans
c'est,
voilà
mais c'est de l'excès et de zèle
voilà c'est ça mais oui, ce qui est intéressant c'est que plus le discours antimilitariste se tarit et plus l'État dans sa forme première met en place une armée qui est là pour mettre le peuple à la botte d'intérêts privés. C'est ça le truc. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de se replonger de temps en temps dans des bons films, dans des bons livres pour se rappeler un petit peu que voilà, il y a des documentaires, c'est bien, la fiction, c'est bien aussi, mais que c'est marrant de se dire que la seule chaîne qui passe encore les sentiers de la gloire, c'est une des chaînes qui est les moins regardées. C'est pas un hasard, je pense. Voilà, mais intéressez-vous à ça, intéressez-vous à tout ça, réfléchissez aussi à la notion d'antimilitarisme, parce que il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais s'il y a plus d'armée, comment on va se défendre? Eh ben moi, je leur répondrai à las barricadas, et puis...
Et puis se défendre de quoi et de qui?
Et puis voilà. Et puis quand on est attaqué, on sait se défendre. Mais ouais. Il faut pas l'imaginer par l'armée. Voilà, il faut l'imaginer par nous. Et puis se dire que on n'a pas envie de tirer. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et un militaire. Mmh. Voilà.
Ouais.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est formé ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances. Les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites. Pour toutes les bonnes actions que tu as faites, tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade. Mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.
Et Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est la causerie, ou radiocanu.org d'ailleurs. Et oui, c'était une vieille chanson de Maxime Le Forestier à l'époque où il faisait pas les enfoirés. Et oui, il savait encore que l'engagement.
Mon hypothèse selon laquelle il était mort, alors c'est mieux.
C'est mieux. C'est plus sympa. Mais voilà, mais c'était une belle chanson. Moi, je la trouve magnifique et je trouve qu'elle résume bien ce que je disais. Je garde la parole, ça vous embête pas ?
Vas-y.
J'en profite parce qu'on est un peu à la bourre. Juste pour vous dire, en ce moment, il y a un grand truc qui est lancé dans les médias qui dit « Oui, les méchants syndicats, ils veulent pas qu'on crée de l'emploi en ouvrant les magasins le dimanche. » Voilà, parce que ça va soi-disant créer de l'emploi. Alors, ça crée jamais de l'emploi, ça crée de la misère, faut être très clair. Les gens qui bossent le dimanche, c'est rarement des gens qui sont très très épanouis, qui sont très heureux de le faire.
Et c'est des contrats tout pourris, encore plus précaires que chez précaires.
Exactement. Moi, je voulais juste expliquer pourquoi ils appelaient à une manif le 18 à 11h30, si ma mémoire est bonne, vous vérifierez hein, à droite à gauche, à lutter contre notamment l'ouverture du dimanche et le nouveau truc qui vient d'être signé avec, par trois syndicats avec le MEDEF, qui va encore être sans contrepartie, mais qui va encore alléger les cotisations sociales des patrons. Juste rappeler que quand on ouvre le dimanche, je vous donne un exemple très rapide, vous allez vite comprendre. Si par exemple, on dit les magasins de bricolage ont le droit d'ouvrir le dimanche, ça veut dire que demain, le BHV peut dire, moi j'ai un rayon bricolage, donc j'attaque la décision de l'État pour dire, moi aussi j'ai le droit d'ouvrir parce que j'ai un rayon bricolage. Donc comme il ne va pas ouvrir que son rayon bricolage, il va ouvrir le BHV. Au BHV, vous avez une trentaine de rayons. Donc vous allez par exemple avoir les magasins de fringues qui vont dire si le BHV peut ouvrir le dimanche, moi je veux pouvoir ouvrir le dimanche, j'attaque la décision.
C'est un effet boule de neige.
Et ça n'est fait boule de neige sans fin. Et pourquoi c'est un effet de boule de neige ? Parce que la première loi qui a permis ça, ce n'est pas une loi justement, c'est un décret, c'est-à-dire quelque chose qui est pris par un ministre sur un coin de table sans consultation de l'Assemblée nationale et en estimant qu'il est tout à fait normal que l'on ouvre le dimanche, donc on fait des décrets, comme ça on passe des trucs par-dessus le peuple, comme dirait ces grands politiques. Mais en gros, ce qui est dégueulasse, c'est que voilà, je voulais parler de ça, expliquer que s'il y a une manif, je l'aurais dit, le 18 à 11h30, c'est pas pour rien et c'est pas parce qu'on veut pas créer de l'emploi, c'est au contraire parce qu'on en a marre de la précarité, marre que les patrons s'en sortent avec les mains pleines et surtout que les actionnaires s'en foutent plein les poches sur le dos des travailleurs. Voilà.
Ok. Allez, je fais vite la mienne. Il y a une... en ce moment, en mars et en avril, en fait, c'est les 20 ans du génocide, en fait, du Rwanda. Et il y a l'association Survie, en fait, qui va... je peux pas dire fêter ça...
Commémorer.
Je suis con en plus, c'est écrit. Pardon. Et rendez-vous le 19 mars à 20h à la Maison des Passages, en fait. C'est une conférence qui sera sur France-Rwanda, les coulisses du génocide. Parce que là-bas aussi, on a les mains couvertes de sang. Ben voilà, je crois qu'on a bien dépassé l'heure. On va se faire tirer les oreilles par les grands méchants... chef de Canu.
Et chef de Canu.
Non, c'est pas vrai.
C'est des sergents.
Et donc, on se souhaite une bonne semaine. On fait des bisous à Jess.
Oh, ouais, j'ai oublié un truc. Excuse-moi, Jess. Les King's Queer nous s'excusent. Ils n'ont pas accès à Internet. Ils n'ont pas pu nous envoyer la carte postale. Oui. Mais on les aura dans la prochaine émission. Voilà.
Okay.
Et à culpa. Et Jess, tu peux y aller dire au revoir maintenant. Vas-y, à toi.
Au revoir à tout le monde.
Au revoir, monsieur.
Et on fait aussi des bisous à Emma si elle nous entend ou
ouais.
Peut-être qu'elle
ne sait pas. Sorcière, elle dort normalement avec cette nouvelle cure.
Bonne semaine à toutes et à tous et on va se terminer. On va terminer l'émission sur un titre de Dub Amix de leur dernier album et le titre de la chanson c'est Ne désespérez pas. Et écoutez bien.
Allez, au revoir, à tantôt.
Bonne semaine,
ciao.
Bon courage.